Berger, y es-tu ? Un podcast réalisé par Franz Vellier pour Radio Saint-Ferréol et la communauté de communes du Val-de-Drôme en Biovallée.
Louis, y es-tu ? M'entends-tu ? Je mets les bottes.
Benjamin et Corinne forment un couple de bergers et d'éleveurs dans la vallée de la Drôme. L'été, ils vivent en alpage avec leurs deux enfants en bas âge et le troupeau de brebis. Le reste de l'année, à la ferme, ils soignent leurs bêtes élevées pour la viande.
Louis, y es-tu ? M'entends-tu ? Je mets ma veste. Louis, y es-tu ? M'entends-tu ?
Leur vie est rythmée par cette alternance, mais aussi par le calendrier des dossiers de subvention dont ils dépendent. Entre le retour du prédateur, le réchauffement climatique ou la concurrence de la viande étrangère, le chemin du pastoralisme est semé d'embûches. Mais Benjamin et Corinne sont confiants. Leur métier n'a-t-il pas traversé les millénaires ? Épisode 7. À ceux et celles qui voudraient s'installer.
Donc là, on est à la ferme.
D'octobre à début juin, on est ici, les deux tiers de l'année,
à la bergerie, donc le centre de l'élevage, même si les bêtes y sont pas si souvent.
Là, il y a quelques brebis et les béliers, sinon le reste du troupeau est dehors, là, en train de pâturer dans la colline.
Et les brebis, à quelle occasion elles viennent dans la bergerie ?
Pour la tonte, par exemple, ou pour quand on doit trier un lot. Quand on en a attrapé quelques-unes, tout ça, c'est quand même bien pratique. Et puis, pendant l'agnelage aussi, on les rentre la nuit. Comme ça, on peut mieux surveiller ce qui se passe, mettre les brebis qui viennent de faire un agneau à part pour qu'elles soient tranquilles. Donc voilà, la bergerie, elle sert à ça. Et puis, bon, il y a toujours besoin d'avoir quelques bêtes à l'abri. Mais sinon, le gros du troupeau est tout le temps dehors, quoi.
Et sur quelle terre ?
Eh bien, ça dépend des périodes. Là, quand les froids arrivent, les prairies commencent à plus valoir grand-chose parce qu'elles ont pris le gel. La qualité nutritive de l'herbe diminue quand même pas mal une fois qu'elle a beaucoup gelé. Là, on passe plus dans les bois comme maintenant, quoi. Quand le printemps arrive et l'agnelage, on est vraiment plutôt sur les prairies autour de la ferme. Elles sont à l'herbe et on les complète aussi avec un petit peu d'orge, un peu de grain, pendant la période des mises bas et le début de la lactation, période qui est assez décisive pour la croissance et la santé des agneaux. Sur la fin du printemps, le mois de mai, mois de juin, on va pâturer des landes aussi sur Gigor, mais un petit peu plus loin. Une fois que les agneaux sont un peu plus grands, on va de plus en plus loin, jusqu'à faire la transhumance à pied avec les agneaux mi-juin pour aller à l'alpage. Mais après, quand on redescend de l'alpage, début octobre, on fait aussi pas mal pâturer des repousses de prairies, des prairies de fauche et un peu des landes aussi, voilà.
Comment ça se passe pour s'installer ? Est-ce que c'est difficile aujourd'hui quand on veut devenir éleveur ?
Je dirais que ça dépend un peu où on se situe géographiquement. En tout cas, pour nous, ça n'a pas été très difficile parce que sur la commune où on est, on a été quand même assez bien accueillis. Du coup, on n'avait pas beaucoup de bêtes au départ, mais petit à petit, on a trouvé des pâturages à la dimension de notre troupeau. Donc actuellement, on a à peu près 150 mères, donc au plus on a jusqu'à 280 bêtes quand on a les agneaux et tout. En tout cas, nous, on a réussi assez facilement, en grandissant petit à petit, à trouver l'espace. Surtout que voilà, on est beaucoup en mode pastoral, donc beaucoup de garde des animaux, même l'hiver, donc on n'a pas besoin de beaucoup de terre pour faire du foin. Pas beaucoup de prairies de fauche. Donc finalement, ça utilise des parcelles qui ne sont pas forcément valorisées autrement que par le pâturage des brebis. Après, je pense que c'est plus difficile de trouver des terres cultivables ou labourables ou fauchables.
Il n'y a pas besoin de racheter l'exploitation de quelqu'un ? Est-ce qu'on peut juste acheter des bêtes et trouver un petit terrain ?
Alors, ça existe des gens qui sont vraiment herbassiers et qui ont juste une caravane et leur troupeau, quoi. Mais c'est quand même un mode de vie assez spécial, quoi. Donc, c'est bien et pratique d'avoir une base, quoi. Un minimum avec un bâtiment agricole et des prés. Enfin, il y a plein de possibilités, en fait, de faire pâturer des bêtes sans forcément être chez soi. On peut faire pâturer les terres d'autres paysans, quoi. On peut faire manger des repousses, ça permet d'améliorer la qualité du foin qu'ils vont faire au printemps ensuite, quand on les fait pâturer à l'automne ou à l'hiver. La base, je veux dire, de ce qui est autour de la ferme, c'est des terres qu'on loue, sous forme de fermage, donc c'est un statut assez protecteur, quand même assez sécurisant pour le locataire. Après, il y a pas mal d'endroits qu'on nous prête de façon vraiment verbale, informelle et gratuite. Ce qui est un peu problématique parce que ça nous empêche de s'investir un peu plus sur les parcelles. Par exemple, dans les bois, il y a des endroits qui mériteraient de faire de l'élagage, des coupes d'éclaircies forestières, des choses comme ça. D'avoir un peu plus de visibilité à long terme, ça permet quand même de mieux développer n'importe quel projet d'élevage. C'est quand même des investissements à long terme.
Donc c'est des terres que vous préféreriez pouvoir louer?
Oui, on préférerait pouvoir louer. Un premier souci, c'est qu'il y a énormément de propriétaires. Les bois sont excessivement morcelés, quoi. Sur chaque parcelle, des fois, c'est des indivisions. Donc, c'est un peu inextricable en termes de démarchage. Ça demande beaucoup d'énergie, de temps. Et d'autre part, il y a pas mal de propriétaires qui ne veulent pas s'engager. Il y a une sorte d'attachement à la propriété, même si les gens n'en font rien du tout. Et que même, c'est plutôt un risque pour leur propriété, parce que... Elle risque de se dégrader, de s'il y a un feu de forêt, de partir en flammes. Mais ils préfèrent ne rien faire. Alors le bâtiment, c'est une bergerie en bois qu'on a construite il y a 8 ans, peu après qu'on s'installe en fait. Au début, on avait une sorte d'appentis en tôle dans un vieux bâtiment... qui tombait en ruine, et puis on a tout démoli, on est reparti sur un bâtiment neuf.
Mais par contre, la ferme, elle vous appartient ou vous la louez ?
La partie professionnelle, en fait, agricole, on la loue, on est fermier. Et la partie habitable, c'est en propriété. Par contre, les terres et le bâtiment, enfin tout ce qui est autour, vraiment à proximité, c'est une SCI, donc tous les voisins, là, quand on a acheté le hameau, on a tous une part dans cette SCI, quoi. Donc on s'auto-loue quelque part. On a fait ce choix-là en fait pour garder une cohérence aussi sur l'outil agricole, quoi. Qu'on ait le bâtiment agricole qui soit avec les terres et que ça soit une seule entité. Parce que bah, pour l'instant, c'est nous qui utilisons les lieux, mais pour la suite, les générations qui viennent, elles aient un outil cohérent.
Il y a des aides à l'installation ou pas ?
Comme toute installation agricole, si on remplit un certain nombre de critères, on peut être aidé. Ouais. Et il y a même un petit coup de pouce supplémentaire pour certaines filières comme l'élevage de brebis. Ouais.
Dont vous avez pu bénéficier quand vous vous êtes lancé il y a 12 ans ?
Alors on n'en a pas bénéficié quand c'est lancé parce que on ne pouvait pas justifier d'assez de terrain, d'assez de la pérennité économique du système, quoi. On a pu en bénéficier il y a quelques années, là où j'ai pu faire vraiment le dossier, où on a pu avoir ces aides-là, quoi. C'est des aides qui viennent plutôt conforter les jeunes installés, et c'est souvent un peu le cas, hein, j'ai l'impression. Et moi, je dis souvent que c'est le principal frein à l'installation agricole, c'est ces primes qui sont données à l'hectare, ne sont pas données aux... Peu importe ce qu'on fait sur les surfaces, même si on n'en a pas besoin, il y a des primes qui sont données à l'hectare, donc ça pousse à avoir toujours plus de surface, à prendre toujours plus d'hectares. Enfin, économiquement, tout le monde est encouragé dans ce sens-là. Et du coup, ça ne laisse pas beaucoup de place aux installations. Toi. Et quand un vieux arrive à la retraite, c'est tentant pour les voisins de s'agrandir et de phagocyter la ferme du vieux qui part à la retraite, plutôt que d'essayer d'installer un jeune à la place. Après, l'élevage pastoral, l'avantage, c'est qu'on ne cherche pas forcément des terrains à cultiver, on cherche juste de l'herbe pour faire manger ses bêtes. Donc ce n'est pas du tout la même relation au foncier, à la propriété. Et donc on peut plus facilement, en tout cas, faire son trou. Et en plus, on peut valoriser des terrains maigres que personne d'autre n'utilise, à la différence de... Bah, je sais pas, je connais pas mal de gens qui ont des projets d'installation ou qui sont installés en maraîchage. Pour eux, c'est beaucoup plus difficile, finalement, l'accès au foncier. Parce qu'eux, ils veulent pas beaucoup de terrain. Ils veulent un hectare ou deux. Mais par contre, il leur faut des bonnes terres avec de l'eau. Et ça, c'est beaucoup plus dur à obtenir, finalement.
Qu'est-ce qu'il en est des alpages? Quel est le fonctionnement par lequel vous êtes passé pour vous retrouver à la cabane sur le Joku?
Alors, il n'y a pas de procédure d'attribution des places où ça se passe par connaissance, en travaillant avec d'autres éleveurs et tout ça, et avec le temps, quoi. C'est avec de la patience. Et puis, il faut chercher aussi. Des fois, il faut aller se déplacer. Nous, on a trouvé dans la Drôme, mais ça peut, on peut aller plus loin. Hein. On peut aller en Savoie, on peut aller dans d'autres coins où il y a des fois des places qui se libèrent en alpage. Il y a quand même une assez forte demande pour les places en alpage. Parce que c'est un système qui est super pratique aussi d'un point de vue organisation du travail, puisque ça permet d'avoir un troupeau suffisamment gros pour embaucher un berger. Et du coup, pour l'éleveur qui place ses bêtes, c'est quand même assez économique et puis ça lui libère énormément de temps, quoi.
Berger, y es-tu ? Une série documentaire en 9 épisodes. Prise de son et montage, Franz Vellier pour Radio Saint-Ferréol. Merci à Benjamin et Corinne, éleveurs ovins en pastoralisme, pour leur témoignage. Et à leur fille Madeleine, que vous entendez dans le générique. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de la communauté de communes du Val-de-Drôme en Biovallée. Il s'inscrit dans le cadre du programme européen Moving et bénéficie d'un financement du programme Horizon 2020 de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation.